Et je suis sûre que les auditeurs aussi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième arrêt de notre voyage dans les terres et les mers, bien sûr, de Jules Verne. Une semaine commencée lundi dernier par la vie de Jules Verne, tout entière tournée vers l'écriture, hormis une vie familiale assez peu satisfaisante, une jeunesse longue et bohème, ainsi que quelques voyages. Semaine qui s'est poursuivie hier, avec un épisode consacré notamment au voyage au centre de la Terre, et que nous achèverons demain par une lecture de son œuvre, Par les yeux, de François Angelier, qui en décèlera les mauvais genres, cachés ou pas. Alors on dit parfois de l'auteur des voyages extraordinaires qu'il est un romancier pour section S, même s'il n'aimerait évidemment pas cette appellation, qui confine ses œuvres à ce qui y est décrit, quand pour lui c'était le style qui constituait l'horizon vers lequel il entendait faire avancer son œuvre. De cette dichotomie entre science et littérature, nous allons parler aujourd'hui, tout en poursuivant le panorama de l'œuvre et des grands thèmes qui l'irriguent. Nous le faisons avec Daniel Comper, enseignant émérite à l'Université Paris 3 et grand spécialiste de l'œuvre de Jules Verne, qu'il a découverte il y a de cela bien longtemps, tout comme d'ailleurs l'écrivain Henri Thomas.
Ma découverte de Jules Verne a quelque chose d'exemplaire. J'étais seul dans le grenier de la maison d'école, qui était aussi la mairie. Et dans une armoire démantibulée, j'ai trouvé les débris d'une ancienne bibliothèque. C'était les grands Jules Verne, illustrés des gravures en taille douce de l'édition Hetzel. Et j'ai lu ça dans la poussière avec une lucarne qui regardait le village. Ça a été magique, vraiment. Et puis, à 9 ans, je l'avais perdu. C'était déjà un souvenir. C'était comme un souvenir d'un pays perdu. C'est curieux d'avoir à 9 ans le souvenir d'une vision qu'on a eue quelques années avant, dont on ne peut même pas parler. Les merveilleuses gravures qui ont un petit mot énigmatique qui les accompagne. Par exemple, je me rappelle celle où on voit le matelot Pencroff qui est allongé à l'entrée d'une caverne. Elle est vue de l'intérieur de la caverne et on lit simplement « Pencroff écouta longtemps ». Eh bien, j'ai l'impression que j'écoutais. Je ne savais pas ce qui me parvenait, mais c'était le bruit de la mer que j'avais jamais entendu.
Bonjour Daniel Comper.
Bonjour.
Alors c'est une madeleine pour beaucoup de gens, Jules Verne.
Oui, c'est assez curieux d'ailleurs de constater que pour un certain nombre de lecteurs, Jules Verne a été une lecture d'enfance, parfois un peu oubliée, comme le dit Henri Thomas. Et puis d'autres y reviennent, adultes ou disons grands adolescents, et découvrent alors un aspect qu'ils avaient peut-être négligé. C'est un Jules Verne qui invite au voyage dans l'imaginaire, qui invite à cette découverte de pays lointains, dans l'aventure, dans l'extraordinaire.
Vous ne le relisez plus, vous en avez assez maintenant.
Alors non, je le relis toujours, j'aime bien me replonger dans certains romans. Alors, il y a ceux que je connais presque par cœur à force de les avoir parcourus, annotés aussi, et puis d'autres qui recèlent encore parfois une surprise, une pépite au détour d'une page. Il y a toujours une découverte et je crois que c'est aussi l'un des grands intérêts de Jules Verne, c'est qu'on n'a jamais fini de le lire.
Bah quand même, vous les avez lus tous à peu près 4 fois, hein, c'est ça?
Oui, à peu près, oui, oui.
Et quand vous les avez découverts, c'était, j'imagine, dans la bibliothèque de vos parents, mais les Jules Verne qui étaient dans la bibliothèque de vos parents, j'imagine qu'ils n'étaient pas pleins de poussière parce que vos parents consultaient régulièrement, et même plus que régulièrement, Jules Verne, les livres de Jules Verne.
Oui, c'était une lecture familiale et une découverte que j'ai faite presque par hasard en fouinant dans les rayons de mes parents, tombant sur des titres peu connus d'ailleurs comme Le Chancelor, ou bien plus connus comme 20 lieues sous les mers, mais malheureusement malheureusement dans une édition que j'ai découverte par la suite, abrégée, qui était celle de la Bibliothèque Verte. Et puis la découverte, elle s'est faite aussi par rapport, je dirais, à l'enseignement, c'est-à-dire que j'étais étonné qu'au lycée, on ne nous parle jamais, dans les Lagardes et Michard, par exemple, de Jules Verne, il n'y avait aucun extrait de son œuvre, et ça m'a frappé. J'ai eu envie donc de m'intéresser à cet auteur et de me demander aussi pourquoi il y avait ce traitement un peu spécial de quelqu'un qui était très connu, très lu, et finalement pas étudié en classe, pas considéré comme un classique.
Et à l'université Paris 3, que vous avez quitté en 2013, vos étudiants considéraient Jules Verne comme étant quoi, un écrivain scolaire, ou au contraire, alors j'imagine que c'est vous qui leur donniez envie aussi de le lire, mais quand ils arrivaient à l'université, quel était leur regard sur Jules Verne ?
Alors, ce qui m'a frappé, c'est que c'est souvent un nom qui leur parlait. Ils n'avaient pas toujours lu, ou alors peut-être des extraits, puisque maintenant, en classe, la situation a bien changé par rapport à mon époque. Maintenant, en classe, on étudie Jules Verne, on étudie des extraits du Voyage au centre de la Terre ou du Tour du monde en 80 jours. Et donc, les étudiants qui arrivent à l'université, souvent, le connaissent. Parfois, ils connaissent les films aussi qui ont été tirés de ces romans. Mais ce que j'ai essayé de leur montrer, c'est qu'il y avait peut-être des aspects moins bien connus de Jules Verne, des curiosités que l'on pouvait découvrir dans son œuvre.
Alors vous êtes allé jusqu'à faire une thèse sur Jules Verne, que vous avez ensuite publiée sous l'intitulé « Jules Verne, virgule, écrivain ». Pourquoi avoir souligné comme ça « écrivain » ?
Alors ce titre, effectivement, c'était un peu une provocation par rapport à cette image que Jules Verne a eue, qu'il a peut-être encore d'ailleurs chez certains, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un auteur pour enfants, comme un auteur de science-fiction pour certains, donc marginalisé par rapport aux grands écrivains du 19e siècle. On ne le met pas sur le même plan que Flaubert ou que Zola.
Et pour vous, c'est la même chose.
Voilà, à mon avis, il mérite tout à fait d'être considéré sur le même plan que ces grands auteurs du 19e siècle. Il a, comme Balzac, comme Zola, comme Flaubert, comme Stendhal, construit son univers. Et c'est un univers qui mérite vraiment d'être observé, étudié, lu, analysé.
Et lui-même, comment considérait-il son œuvre ? Parce que c'est quelqu'un qui ne se livrait pas beaucoup, pas plus dans ses romans que dans sa correspondance. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il pensait de son propre travail ?
Alors, le peu que l'on sait de l'opinion de Jules Verne, ce sont des fragments dans quelques lettres à son éditeur où il se plaint effectivement parfois de ne pas être reconnu. Il évoque à plusieurs reprises une candidature à l'Académie française et puis son éditeur le dissuadera toujours. Et effectivement, je crois que Jules Verne n'aurait eu aucune chance d'être élu. Et puis, il y a des interviews aussi, en particulier l'une qu'il accorde à un journaliste américain qui s'appelle Robert Sherrard, qui est tout à fait passionnante. Et je crois que ce journaliste connaissait bien l'œuvre de Jules Verne, il a su poser les bonnes questions. Et Jules Verne s'est laissé aller pour une fois à dire qu'il était effectivement déçu de ne pas être considéré comme un grand écrivain, alors que c'était pour lui l'ambition de toute sa vie, depuis son adolescence, où il commençait à écrire des poèmes ou des petites histoires. Il avait envie de devenir écrivain.
Et ce qui est étonnant dans cette interview dont vous parlez, qui date donc de 1893, Jules Verne a 66 ans à cette époque-là, c'est qu'à plusieurs reprises, alors on ne sait pas si c'est le journaliste qui a vraiment souhaité insister sur ce point, mais à plusieurs reprises, Jules Verne dit qu'il n'a jamais compté dans la littérature française et il a l'air très amer.
Oui, je pense qu'il devait ressentir une grande amertume à voir, par exemple, que lorsqu'il y avait des enquêtes sur le roman, et on commence à en trouver dans la presse à la fin du 19e siècle, au début du 20e aussi, jamais aucun de ces journalistes ne vient l'interroger, ne vient lui demander ce qu'il pense. Lui se tient au courant, il suit, il connaît bien la littérature de son temps. Par exemple, il parle de Maupassant, qu'il semble apprécier, mais lui-même sent bien qu'il n'est pas considéré comme un écrivain à part entière.
Et pourtant, il se donne du mal. Il dit « J'ai toujours fignolé la forme et le style, bien que personne ne m'en ait jamais rendu justice. » Et c'est vrai que encore aujourd'hui, on considère, et Jean-Luc Steinmetz le disait dans l'émission d'hier, que le style de Jules Verne est plat.
Alors c'est vrai que c'est un style assez particulier que Jules Verne adopte. Je pense que c'est d'ailleurs une démarche qui correspond à son projet, qui est, il ne faut pas l'oublier, un projet didactique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'enseigner au lecteur un certain nombre de données scientifiques, on va dire au sens large. Ne pas peut-être chercher à perturber le lecteur par des phrases trop alambiquées, trop travaillées, mais... Jules Verne cherche aussi à être très précis et c'est une grande qualité que lui ont reconnu des gens comme Apollinaire, par exemple, qui s'extasie devant le style de Jules Verne. Il dit « c'est un style extraordinaire, il n'y a que des substantifs ».
Et en quoi c'est extraordinaire ?
Alors pour Apollinaire, je pense qu'il y avait un style très précis où chaque mot désigne exactement un objet sans que Jules Verne, c'est une de ses caractéristiques, passe par des images, des métaphores ou des métonymies. C'est une désignation souvent directe des objets dont il est question. Et c'est peut-être ce qui explique cette impression de platitude que l'on ressent parfois, mais qui est aussi, après tout, la caractéristique de Jules Verne.
Jules Verne retravaillait énormément. Daniel Compère, il avait un emploi du temps qui, quand on le détaille, nous permet de comprendre à quel point c'était un grand travailleur.
Oui, c'est un emploi du temps tout à fait particulier que Jules Verne explique à plusieurs reprises à des journalistes qui viennent l'interroger. Il leur dit qu'il se lève tôt le matin, vers 7 heures à peu près, se met très vite au travail pendant plusieurs heures. Il écrit jusqu'à midi, 13 heures à peu près, sans doute. Puis il va manger avec son épouse qui est dans la même maison que lui. Et puis l'après-midi est consacré à des lectures, alors, ou des rencontres, ou les deux. Alors, ces lectures, Jules Verne les fait lorsqu'il habite Paris ou Amiens, dans les bibliothèques où il se rend pour consulter des ouvrages, pour lire la presse aussi, parce qu'on s'est rendu compte que la presse et l'actualité lui fournissent souvent des idées, des sujets.
Il était abonné à 15 revues.
Lui-même, voilà, en recevait un grand nombre, dont Le Tour du Monde, qui est une revue de géographie dans laquelle il va trouver beaucoup d'informations.
La revue et La Nature aussi.
La Nature également lui fournit des données scientifiques. Et puis Jules Verne ménage toujours un temps en fin de journée pour des rencontres avec des amis. On a parlé de ce club qu'il avait fréquenté à Paris, mais à Amiens, il fréquentait aussi des associations, des clubs qui se rencontraient dans des cafés. Et il aimait, souvent étant lui-même assez silencieux, écouter des gens parler de leur activité, de leur métier ou d'une information. Et on sait qu'il prenait des notes sur un petit carnet. Il avait toujours ce souci d'être à l'écoute de tout ce qui pouvait se passer autour de lui. Et un certain nombre de ses notes lui ont servi vraisemblablement pour ses romans.
Oui, mais ça c'est uniquement si les interlocuteurs qu'il avait en face de lui s'y connaissaient très bien. Parce que ça ne l'intéressait pas de parler de la pluie et du beau temps. Il le dit, j'aime écouter les gens parler à condition qu'ils parlent de sujets qu'ils connaissent.
Voilà, c'est quelqu'un qui aimait effectivement, qui avait une grande curiosité certainement, qui était à l'écoute des gens qui venaient lui parler. Et on sait que parmi les gens qu'il fréquentait à Amiens, il y avait des industriels, des ingénieurs, des hommes politiques aussi, puisque Jules Verne s'intéressait également à cet aspect de son actualité.
Et donc toute cette documentation, Daniel Compère, on la retrouve bien entendu dans les romans, mais sous quelle forme ? Comment est-ce qu'il l'intègre à une écriture qui est une écriture romanesque et comment est-ce qu'il en fait justement de la littérature puisque c'est ce à quoi il aspire ?
Alors c'est peut-être là aussi une des caractéristiques de Jules Verne, une de ses particularités qui... à la fois le rapproche, mais le distingue de ses contemporains. On sait que beaucoup d'auteurs au XIXe siècle étaient intéressés par la science. Quelqu'un comme Flaubert lisait énormément, se documentait. Zola revendique aussi d'être un écrivain scientifique. Mais Jules Verne, lui, cherche à s'inscrire dans un processus de vulgarisation, donc de faire passer des connaissances à ses lecteurs. Et il introduit donc souvent dans ses romans ces passages descriptifs que certains lecteurs d'ailleurs regrettent et sautent parfois à la lecture, hein, si les descriptions sont trop longues.
Vous en faites partie.
Moi, j'aime bien les lire parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un travail d'écriture véritablement, une véritable poésie qui parfois se dégage de certains de ces passages.
Mais le test, c'est peut-être ça, parce que quand on relit Jules Verne plusieurs fois, comme vous l'avez fait, est-ce qu'on passe les moments qui sont destinés à l'édification de la jeunesse, ou est-ce qu'on les relit avec autant de plaisir que le reste du texte?
Alors, je crois qu'il faut les relire parce que effectivement, on y trouve un plaisir, on y fait des découvertes. On peut découvrir, par exemple, dans Le Voyage au centre de la Terre, qui sort dans la Pléiade, ou dans 20 milieux sous les mers, qui a déjà été édité, des descriptions, des listes qui peuvent paraître rébarbative d'animaux, de pierres, de poissons. Et puis, en les lisant, on s'aperçoit que Jules Verne a rapproché parfois des noms qui ont un effet poétique, qui ont des sonorités qui se ressemblent. Et Michel Butor, par exemple, a été étonné, en relisant Jules Verne dans les années 1950, de découvrir qu'il y avait une véritable poésie dans ses descriptions.
Oui. J'avais une citation de Michel Butor, mais elle est en train de disparaître sous mes yeux. C'est toute la poésie aussi des choses qui disparaissent, comme dans 20 milieux sous les mers, et de ce milieu aquatique qu'il décrit précisément comme un livre de biologie, c'est-à-dire avec des termes qui sont des termes techniques, mais il en fait de la poésie précisément.
Alors, l'exemple de 20 milieux sous les mers est intéressant parce que là, nous avons le sous-marin que Nemo a fabriqué qui s'appelle le Nautilus. Dans ce sous-marin, il y a une bibliothèque que découvre un savant qui s'appelle Aronnax et qu'il estime à 10 000 volumes, ce qui est donc déjà une bibliothèque bien fournie. Et dans cette bibliothèque, il y a des ouvrages scientifiques, des ouvrages sur la mer, sur les poissons. Il y a même un ouvrage qu'Aronnax lui-même a publié quelques années auparavant et dont il découvre que Nemo l'a donc acquis et lu. Et dans le Nautilus, il y a à la fois la lecture de ces ouvrages et en même temps le regard à travers le hublot qui permet de voir les animaux dont il est question dans les livres. C'est-à-dire que c'est une double lecture à la fois dans le livre scientifique et une lecture de la nature, du spectacle qu'elle propose aux gens qui sont à l'intérieur du Nautilus et qui sont d'ailleurs dans une situation assez curieuse, se retrouvant eux-mêmes dans un aquarium, mais ce sont les poissons qui sont à l'extérieur.
Donc c'est la bibliothèque rêvée, celle où tout de suite on peut, en fermant le livre, voir ce qu'on a lu à travers la fenêtre.
Voilà, et beaucoup de voyageurs de Jules Verne aiment d'ailleurs voyager avec un livre. Ils préfèrent même parfois lire plutôt que regarder le paysage, ce qui est vraiment un paradoxe.
Comme si c'était un guide de voyage.
Voilà, un guide de voyage qui leur paraît plus intéressant que ce qu'ils pourraient voir par une fenêtre ou par un hublot.
Le tour du monde en 80 jours, ça alors c'est le roman le plus profondément philosophique qui n'ait jamais été écrit, parce que le sujet est très simple. Vous avez un monsieur qui vit dans une bibliothèque sans en sortir, Phileas Fogg. Et sa bibliothèque, c'est essentiellement des annuaires de chemin de fer et de bateaux. Et de ces annuaires, il déduit, a priori, avant toute expérience, qu'on doit pouvoir faire le tour du monde en 80 jours.
C'est ça.
Donc, si vous voulez, c'est une idée abstraite. Il va dans son club, il dit ça, et tout le monde se moque de lui. Et il décide de le faire. C'est-à-dire, c'est le heurt, le choc d'une idée a priori et de l'expérience. Et c'est le même sujet que Don Quichotte de Cervantes. Parce que Don Quichotte a vécu dans une bibliothèque avec des romans de chevalerie.
Et il croit que c'est vrai.
Et il dit, eh bien, on va voir si c'est vrai.
Ouais,
il prend sa Rosinante et il part à l'aventure. Naturellement, c'est une catastrophe. Alors, en ce qui concerne Phileas Fogg, il y a le monde idéal de ces annuaires, qui est la chronologie, c'est le monde de l'horloge.
Oui.
Et là, tout doit marcher, on doit pouvoir faire le tour du monde en 80 jours. Et puis, il y a la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est la météorologie, qui est le contraire de la chronologie, c'est-à-dire les vents, les tempêtes, les pluies, la neige, enfin, tout ce que le ciel nous déverse sur la tête et de façon totalement imprévisible. Et alors, il va s'adjoindre un Français qui va le sauver, parce que c'est grâce à Passepartout que le Tour du Monde réussit. Et ce Français est débrouillard, notez-le bien. C'est-à-dire que c'est un anti-brouillard. Et lui, Fogg, il s'appelle Fogg.
Fogg, bien sûr.
C'est-à-dire brouillard.
Ouais, très joli.
C'est très extraordinaire. Il y a un humour incroyable là-dedans. Et puis alors, la conclusion, ça dépasse tout. Il fait le tour du monde en 81 jours. Il est absolument sûr. Il a tenu son calendrier. Il a perdu son procès.
Ouais. C'est la chronologie, là.
Ça, c'est la chronologie qui gagne. Passepartout va faire des courses. Ouais. Il revient en hurlant, mais... Tous les magasins sont fermés, nous ne sommes pas lundi, nous sommes dimanche. Donc nous avons gagné, nous avons fait le tour du monde en 80 jours.
Oui, ça c'est l'histoire du premier...
Parce qu'il a fait le tour du monde d'ouest en est,
donc
il a gagné un jour. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça rejoint certaines analyses de Kant dans la critique de la raison pure, où il explique que l'espace et le temps ne sont pas réductibles au concept abstrait. Et Kant, à cette comparaison fabuleuse qui aurait certainement enchanté Jules Verne, il dit « Si le monde entier ne se résolvait qu'en un seul gant, encore faudrait-il que ce fût un gant droit ou un gant gauche ?» Et ça, l'intelligence ne le comprendra jamais. Et l'intelligence de Jules Verne ne peut pas comprendre qu'il ait gagné son pari, car il l'a perdu au point de vue de l'intelligence.
Formidable quand Michel Tournier parle du Tour du Monde en 80 jours. C'était au micro de Gilles Lapouge en mai 2000, Daniel Compère.
Oui, et Michel Tournier est un lecteur passionnant qui met le doigt sur des aspects qui sont parfois, qui pourraient paraître minimes, mais qui sont importants. Et je crois qu'il souligne bien plusieurs choses. En particulier, Jules Verne, effectivement, écrit des romans qu'on pourrait appeler scientifiques ou qui s'appuient sur des connaissances scientifiques, mais c'est aussi un romancier, c'est-à-dire qu'il invente des épisodes, il invente justement tout ce qui va empêcher Phileas Fogg de réaliser le voyage idéal tel que les indicateurs le donnent, tel que par exemple les correspondances entre un bateau ou un train semblent pouvoir se faire dans un idéal que Phileas Fogg ne connaît pas, puisque la réalité va le rattraper. Et puis Michel Tournier aussi montre bien cette caractéristique de Jules Verne, qui est que un certain nombre de ses personnages échouent finalement dans leur projet, mais échouent tout en réussissant. Et là, l'exemple de Phileas Fogg est tout à fait intéressant, puisqu'il ne réalise pas son tour du monde en 80 jours. Pour lui-même, il a perdu, mais par le jeu des méridiens, il a gagné une journée en voyageant de l'ouest vers l'est. Et donc, pour ceux qui sont restés à Londres, il revient à temps. Et donc, il a à la fois échoué et réussi.
Mais est-ce qu'il a plus échoué ou plus réussi, selon vous, ou selon Jules Verne ?
Selon Jules Verne, il a finalement, ce qu'il a réussi, c'est qu'au cours de ses aventures, il a sauvé la vie d'une jeune femme aux Indes et qu'il va l'épouser à la fin du roman. Donc ça valait peut-être la peine de faire le tour du monde pour cela, pour trouver une épouse qui lui convienne à ce personnage qui vivait seul auparavant, enfermé dans sa maison. Mais on pourrait dire que cet échec, on le trouve aussi dans Le Voyage au centre de la Terre, où les personnages ne vont pas au centre de la Terre. Ils descendent dans une partie seulement de la croûte terrestre, et puis sont rejetés à nouveau par un autre volcan, le Stromboli, qui les ramène à la surface. De même, dans De la Terre à la Lune, on ne va pas sur la Lune, contrairement à ce que croient d'ailleurs un certain nombre de lecteurs, qui s'imaginent que Jules Verne est allé sur la Lune. Non, ces personnages vont en faire le tour, ils vont apercevoir quelques aspects de la Lune, imaginer d'ailleurs plus que voir véritablement, et puis revenir sur Terre très contents de leur voyage, même s'ils n'ont pas atteint leur but. Et ça, c'est assez curieux de constater qu'un certain nombre d'entreprises, comme dans les romans de Jules Verne, sont ainsi voués à un relatif échec, en tout cas ne pas réussir pleinement.
Et pourquoi alors organise-t-il les choses comme ça, selon vous ?
Alors je pense que c'est à la fois pour surprendre ses lecteurs, c'est-à-dire qu'on s'attend à une fin de la Terre à la Lune, on s'attend à aller sur la Lune, on n'y va pas, il y a une surprise, il y a autre chose qui
donc
est
proposée. Donc ce serait de la technique narrative pure, alors
Il y a une part de technique narrative pure, et puis je pense qu'il y a aussi une sorte de timidité de la part de l'auteur, de ne pas vouloir peut-être imaginer qu'est-ce que ces personnages auraient trouvé sur la Lune, ce que Wells, par exemple, fera quelques années plus tard en imaginant des sortes de fourmis qui habitent notre satellite. Jules Verne, lui, ne va pas jusque-là. Alors, peut-être diront certains, parce qu'il a cette mission éducative et donc toujours de rester dans le savoir connu et qu'il doit apprendre à ses lecteurs. Bon, ce qui est une hypothèse, mais je n'en suis pas totalement sûr. Je pense que lui-même recule parfois devant une certaine audace que d'autres romanciers après lui auront.
Et d'ailleurs, il disait lui-même qu'il ne faisait pas réellement de la science-fiction parce que lui n'invente pas ce qui n'existe pas. Il ne fait que pousser un petit peu ce que la science de son temps permet.
Voilà, c'est ce qu'il déclare à ceux qui le comparent à Wells dans les dernières années de sa vie. Et c'est vrai en partie là aussi seulement, parce que je pense à un roman comme Le Sphinx des Glaces, où cette fois il imagine que se dirigeant vers le pôle sud, on va découvrir une montagne magnétique en forme de sphinx, une découverte tout à fait étonnante qui s'inspire d'ailleurs de la fin du roman d'Edgar Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, qui se termine lui aussi sur une vision étrange. Parfois, Jules Verne se permet une petite fantaisie, si on peut dire, ou une imagination un peu plus libérée dans la fin de certains de ses romans. Et certains lecteurs parfois regrettent qu'il n'ait pas plus souvent laissé ainsi la liberté à son imagination.
Il faut dire que les personnages, les grands personnages verniens, se posent des défis qui sont extrêmement difficiles à atteindre. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des perfectionnistes? Et peut-être parce qu'ils sont perfectionnistes, justement, ils échouent, mais ils trouvent autre chose. Et du coup, cette histoire serait une histoire initiatique presque d'un personnage.
Oui, ce sont effectivement tous ces personnages sont des perfectionnistes avec parfois d'ailleurs une rigueur dans leur démarche scientifique qui les rend presque inhumains. On évoquait tout à l'heure Phileas Fogg qui est comparé très souvent à un automate, mais on pourrait en dire autant de Otto Lidenbrock dans Voyage au centre de la Terre, hein, qui est un personnage froid qui ne pense qu'à la science. Nemo aussi, dans une certaine mesure, sauf à certains moments où l'émotion est très forte chez lui, mais c'est aussi quelqu'un d'assez froid, d'assez marqué par cette envie de perfection et de découverte des dessous des mers.
Mais lui est capable d'exploser de temps en temps. Est-ce qu'il y a de la passion chez Jules Verne, ou est-ce que la passion est trop rentrée, trop sous-jacente?
Alors il y a de la passion scientifique, c'est-à-dire que certains personnages vont parfois atteindre des limites qui leur fait frôler la folie. Je pense au capitaine Atterras qui veut, lui, atteindre le pôle Nord et voudra absolument, même si tous les éléments et tout est contre lui, mettre le pied à l'endroit où il situe le pôle Nord. Il y a Nemo qui, dans son envie de vengeance, puisque sa famille a été tuée sans doute par
un mauvais état.
Voilà, un mauvais état, hein, puisqu'il y a plusieurs hypothèses là aussi, va chercher à se venger, à couler les navires qui appartiennent à cette nation lorsqu'il les rencontre, et cela l'entraîne donc à devenir un véritable meurtrier.
Mais ce sont des mauvaises passions, c'est une forme de rage.
Voilà, il y a aussi des bonnes passions, des passions de certains savants qui ont envie d'élargir leurs connaissances, d'en savoir plus, de se rendre dans des pays peu connus, voire totalement inexplorés, pour en faire profiter leurs concitoyens. Il y a aussi, il faut le dire, la passion amoureuse, même si elle n'est pas toujours présente.
Il y a des elle romans, est rentrée là aussi, elle voilà, est tenue.
Comme le disait Jules Verne, il s'adresse à un large public et ça ne fait pas partie de son contrat avec son éditeur, de son cahier des charges, on pourrait dire, de raconter des histoires amoureuses, mais il en place assez souvent. Il y a assez souvent, même si c'est très discret, il n'y a même pas de baisers échangés, mais malgré tout, il y a des aventures amoureuses. Il y a aussi des personnages féminins. Je pense là, c'est un roman très peu connu qui s'appelle Mistress Brannigan, qui est une femme qui va monter une expédition pour retrouver son mari disparu, et c'est bien la passion amoureuse là qui la guide tout au long du récit. pour retrouver le malheureux naufragé.
Et puis, dans le village aérien, cette phrase des observateurs qui observent un curieux, je cite, éjaculateur à branches épineuses dont la noix, lorsque le fruit est mûr, fait explosion en projetant la semence de ses 16 compartiments.
Alors oui, ce sont des passages que les lecteurs de Jules Verne qui aiment, qui ont, on pourrait dire, l'esprit un petit peu
mal tourné,
tourné vers des allusions sexuelles, repèrent parfois, et il est vrai qu'il y a...
Là, c'est plus qu'une allusion quand même.
Là, c'est plus qu'une allusion, il y en a quelques-unes que l'on peut ainsi repérer dès qu'il est question de tendre sa vergue à bord d'un bateau. Bon, certains imaginent qu'on parle de tout à fait autre chose que de navigation.
Allez, on va continuer de parler de Jules Verne avec vous, Daniel Compère, mais pour l'heure sur France Culture, il est 15h30. Et comme chaque jour, à 7h, nous allons voir ce qui se passe du côté des publications littéraires. En l'occurrence, aujourd'hui, du côté du magazine littéraire avec vous, Pierre Assouline. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Et sur la couverture du magazine littéraire, il y a une grande photo de Kevin Spacey, l'acteur star de la série House of Cards, pour annoncer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire un dossier sur les séries vues par les écrivains.
Et oui, et je voulais vous en parler aujourd'hui, mais je voulais vous parler également de Shakespeare, parce que j'ai lu un très bon livre, et puis comme vous savez, il y a l'anniversaire Shakespeare, et j'hésitais entre les deux sujets. Et bien finalement, j'ai parlé des deux, puisqu'en fait, c'est la même chose. Comme ça ne vous a pas échappé, il y a nombre de séries aujourd'hui, de séries déjà cultes, dont on parle dans ce numéro du magazine, qu'il s'agisse de Six Feet Under, Game of Thrones, évidemment, Fargo, Top of the Lake, Twin Peaks... Bien entendu, Les Sopranos. Nombre de ces séries, on s'en aperçoit, c'est finalement très shakespearien. Parce que de quoi parlent-elles, ces séries ? Eh bien, elles parlent de l'amour, la mort, l'envie, la jalousie, la haine, l'infidélité, le pouvoir qui rend fou, évidemment, la vengeance, la solitude, la douleur de l'absence, la beauté, bref, tout ce qui fait à la fois les comédies et surtout les tragédies de Shakespeare. Par exemple, House of Cards, qui fait la couverture de ce numéro du magazine, qui est un numéro spécial, House of Cards, c'est Richard III. D'ailleurs, le scénariste, qui est cité par Daniel Mendelsohn dans son article, dit bien qu'il s'est inspiré de la pièce de Shakespeare et que pour lui, Frank Underwood, c'est Iago et nul autre. Donc ça m'a beaucoup frappé. Et comme en même temps, j'étais en train de lire un superbe livre sur Shakespeare, eh bien, j'ai mêlé les deux. Évidemment.
Mais du coup, on peut se poser la question, Pierre, et vous la posez dans le magazine littéraire, est-ce que ces séries-là, finalement, sont une réelle nouveauté par rapport d'abord au feuilleton du 19e, et puis par rapport à Shakespeare, et par rapport à la littérature telle qu'elle se développe, la fiction telle qu'elle se développe depuis des dizaines d'années ?
Vous savez, Martin Winkler, qui est un grand spécialiste de la chose, fait remonter les séries, non pas à Eugène Sue et au feuilleton, comme on le fait souvent, et ce n'est pas notre spécialiste de Jules Verne qui nous démentira, mais bien avant, il fait commencer ça pratiquement à l'Iliade et l'Odyssée. Donc la différence, c'est le média, c'est le support. Au XIXe siècle, les séries ont été propulsées par un support qui, justement, arrivait à fidéliser les lecteurs tous les jours, qui était le journal. Aujourd'hui, c'est le média, c'est la télévision. Et la plupart des gens de cinéma vous répondront qu'aujourd'hui, c'est à la télévision que ça se passe dans les séries et non plus au cinéma. Donc ça, c'est assez frappant parce que la douzaine d'écrivains qu'on a invités à choisir chacun une série, qui sont par exemple Carole Martinez ou Bernard Werber ou Philippe Claudel ou Virginie Despentes, chacun a choisi une série et on s'est rendu compte que dans chacun, cet esprit du feuilleton perdurait et qu'aussi... Pour chacun, ces séries doivent quelque chose à la littérature et très souvent, encore une fois, à Shakespeare. C'est la raison pour laquelle je me permets également donc de recommander ce petit livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur Shakespeare à cause de l'anniversaire des 400 ans de sa mort. C'est Jean-Michel Desprats, qui est le traducteur de Shakespeare dans la Pléiade, qui est très souvent, j'allais dire, joué à la Comédie française. C'est un que sais-je, tout simplement, un bon vieux que sais-je, mais très récent, très moderne, au puf, qui s'intitule Shakespeare, et qui fait remarquablement le point sur l'interprétation, sur la dimension historique de Shakespeare, sur le vrai et les faux Shakespeare, John Florio, et puis Christopher Marlowe et tous les autres. Mais surtout, il fait le point sur quelque chose d'essentiel, à savoir que Shakespeare n'est pas écrit en anglais. évidemment pas en anglais contemporain, ni même en anglais de l'époque. Il est écrit dans un idiolecte shakespearien qui n'appartient qu'à lui, car il a créé son lexique, sa grammaire, sa syntaxe. Et ça, c'est très très bien expliqué par Jean-Michel Desprats.
Et on peut signaler que ce soir, Arte propose un théma consacré à Shakespeare.
Oui, enfin, on ne dit plus théma, je crois, mais peu importe, ça revient à ça. C'est-à-dire une
comment
soirée
on
spéciale.
Dit alors maintenant,
une soirée spéciale.
C'est bien théma, pourtant.
Avec Shakespeare in Love, avec Kenneth Branagh et Emma Thompson, très beau film. Oui. Et ensuite, un documentaire.
Une version humoristique, alors. Hein.
Oui, oui, ouais. Plutôt. Et puis après, un documentaire sur la vie et l'œuvre, et qui fait le point, justement, sur les diverses attributions des différents Shakespeare, puisque c'est toujours un mystère pour certains. Est-ce qu'il a vraiment existé ou pas? En tout cas, l'œuvre est là, c'est bien essentiel.
Merci beaucoup, Pierre Assouline. Tout cela et bien plus dans les pages du magazine littéraire, actuellement en kiosque. Et nous sommes toujours en bonne compagnie, celle de Jules Verne, par la voix d'un grand spécialiste de son œuvre, Daniel Compère, alors que voici le témoignage d'un autre grand lecteur de Jules Verne, le réalisateur et ethnologue Jean Rouche.
Lorsqu'il y a une histoire dans la Jungala qui m'a beaucoup impressionné, qui est le triple mariage au milieu de l'Amazonie entre les enfants, les descendants d'un ancien forçat, je crois, évadé, et c'est juste au moment de son mariage qu'on doit fusiller le père. Et la cérémonie de la fusillade se transforme en une cérémonie de mariage, qui est quand même un retournement de situation très intéressant.
Enfin, vous qui avez vécu les aventures des héros de Jules Verne dans l'Afrique, quelle a été l'influence de vos lectures d'enfants sur votre carrière?
Eh bien, c'est que j'ai toujours cru que le paysage de l'Afrique était semblable à ceux qu'on découvre du ballon qui survole ce même territoire. Et j'ai simplement découvert un jour qu'il y avait effectivement un paysage qui ressemblait étrangement à cela, qui sont les montagnes de Hombori, qui sont exactement semblables à ce que les illustrations de ce livre nous apportent. Ce sont ces mondes échiquetés, mais qui sont, je m'empresse de le dire, quelque chose d'absolument exceptionnel dans le morne paysage africain.
Par conséquent, l'imagination de Jules Verne avait quand même un moment rencontré la réalité géographique.
Je crois, oui. C'était une chance. C'est-à-dire, il a inventé les paysages et il s'est trouvé que ces paysages existaient vraiment.
Que vous l'écoutez avec plaisir, Jean Rouche qui parle de Jules Verne, Daniel Compère.
Oui, d'abord parce que je ne connaissais pas ce témoignage de Jean Rouche, et puis il décrit bien la réaction d'un certain nombre de lecteurs qui ont trouvé leur vocation scientifique en lisant l'œuvre de Jules Verne, que ce soit des explorateurs, des vulcanologues comme Haroun Taziev, même des cosmonautes. Parfois, on fait référence à Jules Verne. Et c'est assez étrange quand on y pense qu'une œuvre romanesque, considérée comme mineure à son époque, ait eu ainsi une telle influence non seulement sur des vocations scientifiques, mais aussi des vocations littéraires, puisque plus récemment, c'est vrai, mais l'autre jour, vous citiez Raymond Roussel, qui est un des premiers à marquer son admiration pour Jules Verne. Et puis, il y a eu, après lui, des gens comme Raymond Queneau, puis plus près de nous, Georges Perec, Michel Tournier, pour qui Jules Verne a été une lecture véritablement marquante et parfois même qu'ils ont essayé de, non pas d'imiter, mais dont ils se sont inspirés dans certaines de leurs œuvres.
Est-ce qu'ils y trouvent tous la même chose? Ou est-ce que chacun y découvre une chose qui lui est propre et qu'il assimile par lui-même?
Alors, je crois que c'est la richesse de l'œuvre de Jules Verne qui fait que chacun y trouve quelque chose qui n'est pas nécessairement ce qu'un autre va y découvrir. Quelqu'un comme Raymond Roussel est fasciné par une description de pays lointains que lui-même essaie et a parfois des difficultés à réaliser puisqu'il va devoir trouver son inspiration dans des manipulations de mots. Raymond Queneau, lui, me semble, est plus attiré par un côté farfelu chez Jules Verne. Il s'intéresse à des personnages de savants comme ceux de La Terre à la Lune ou bien un personnage d'un roman de la fin de la vie de Jules Verne qui s'appelle La Chasse aux Météores, qui s'appelle Zéphirin Xirdal, qui est aussi un savant un peu farfelu.
Oui, parce qu'il tient vraiment les deux choses, Jules Verne, à la fois une extrême rigueur des personnages qui ont l'air comme ça, presque scientifiques, hein, justement, et puis d'autres personnages qui sont de l'ordre du savant fou. Vous allez me dire que c'est la même chose, hein.
Alors, c'est à la fois la même chose, et puis je dirais que c'est toute la richesse de la palette dont il représente les connaissances scientifiques, effectivement, avec des savants qui sont tout à fait des personnes honorables dont le savoir est sérieux et qui apprennent à d'autres, et puis d'autres qui vont être plutôt des inventeurs qui vont parfois partir dans des délires tout à fait étonnants, et c'est l'exemple d'un Zéphirin Xirdal, d'un personnage qui s'appelle Maston aussi, qui apparaît déjà dans De la Terre à la Lune et qui imaginera dans un roman qui s'appelle Sans dessus dessous de tout simplement faire basculer l'axe de notre Terre pour qu'on puisse accéder au pôle, faire fondre les glaces et ainsi accéder à des mines de charbon que l'on pourra exploiter. Bon, au passage, on aura noyé la moitié de la population et asphyxié l'autre moitié, mais peu importe, pour lui, ce qui compte, c'est une entreprise industrielle.
Oui, mais en ces temps de géo-ingénierie pour contrer le réchauffement climatique, Jules Verne aura peut-être beaucoup de choses à nous apprendre de ce point de vue-là.
C'est vrai qu'on devrait le relire de près, voir certains discours de Nemo, par exemple, qui s'inquiète de la pollution des mers en disant certains de ces animaux, peut-être un jour, vont disparaître. Ou bien ce voyage autour du monde qui est aussi Les Enfants du Capitaine Grant, où l'on commence à voir l'emprise d'une civilisation occidentale sur des pays et des tribus qui jusque-là vivaient isolés et qui sont perturbés par cette arrivée d'une civilisation étrangère, ou bien effectivement ce projet fou de Maston qui consiste là à modifier notre planète, quitte à quasiment la détruire.
Mais vous n'avez pas cité, parmi les grands écrivains très influencés par Jules Verne, un écrivain qui est devenu géographe parce qu'il a lu Jules Verne, et c'est Julien Gracq.
Oui, alors Julien Gracq est un exemple intéressant aussi d'auteur influencé par Jules Verne, et certains d'ailleurs se demandent pourquoi quelqu'un comme Julien Gracq, qui est un écrivain si raffiné, que certains pourraient considérer comme élitiste, pourquoi s'est-il si intéressé à Jules Verne? Et je crois que ce qu'il y a trouvé, effectivement, c'est cette passion de la géographie, ce qui a été son premier métier puisqu'il était professeur de géographie, et puis qui l'a peut-être amené à vouloir à son tour imaginer des pays plus ou moins imaginaires. Et quand on connaît bien Jules Verne, qu'on lit Le Rivage des Sirtes, on repère effectivement ça et là une influence très marquée de l'auteur de Mathias Sandorf, qui se déroule aussi sur ce rivage des Sirtes, sur Julien Gracq.
C'est l'amour des cartes aussi, qui sont très présentes cartes, dans le rivage des Sirtes et aussi dans Jules Verne.
Oui, cette passion pour les cartes, Jules Verne l'a fait partager par beaucoup de ses personnages qui lisent les cartes, qui voyagent sur des cartes, qui dressent eux-mêmes des cartes lorsqu'ils sont dans des pays inconnus. Et c'est véritablement une activité d'écriture, là aussi, que Jules Verne donne à ses personnages qui le représentent d'une certaine façon.
Mais alors cette géographie, Daniel Compère, elle est extrêmement précise. Et par exemple, quand on relit, comme c'est votre cas, 3 ou 4 fois le voyage au centre de la Terre, j'imagine que on trace aussi sur un papier où on regarde une carte, une map monde, pour voir la correspondance entre la durée que mettent les personnages pour aller d'Allemagne jusqu'à Reykjavik, puis de Reykjavik jusque dans le centre du volcan. Et tout cela est, aujourd'hui on peut le vérifier assez facilement avec Google Maps et des choses comme ça, et tout cela est extrêmement précis en fait.
Oui, c'est assez frappant de voir cette précision, la description de trajets qui sont suivis par des personnages, que l'on peut parfois d'ailleurs refaire en partie aujourd'hui. Bon, je n'irai pas personnellement me lancer vers le centre de la Terre en entrant dans un volcan volcan islandais, mais au moins on peut voyager en suivant Otto Lidenbrock, partant de Hambourg, prenant un navire pour se rendre au Danemark, puis parcourant la mer pour se rendre jusqu'en Islande, ou bien certains romans qui correspondent aussi à des trajets bien précis. Beaucoup ont voulu refaire, par exemple, le tour du monde de Phileas Fogg, et c'est devenu à une époque une véritable tentative pour essayer de battre son record.
Daniel Compère, on a parlé des écrivains et ils sont nombreux qui admirent Jules Verne, mais c'est une grande chaîne qui s'élance vers l'infini et Jules Verne lui aussi était un admirateur de nombreux écrivains. Lesquels ?
Alors Jules Verne est un admirateur d'un certain nombre d'écrivains. On parlait tout à l'heure de Shakespeare et il fait partie des auteurs qu'il admire, qu'il a lu dans sa jeunesse. Qu'il cite assez souvent aussi. Par exemple, dans De la Terre à la Lune, il y a plusieurs allusions à Shakespeare qui arrivent alors que le lecteur ne s'y attend pas.
Mais ça, c'est peut-être aussi du temps où il souhaitait devenir dramaturge qu'il s'intéressait à Shakespeare.
Pour Jules Verne, Shakespeare est sans doute un modèle qu'il aurait peut-être rêvé d'imiter sans avoir jamais réussi à le faire dans ses tentatives théâtrales, en tout cas.
On peut faire une parenthèse peut-être sur les tentatives théâtrales, justement, et dire s'il faut qu'on les lise ou si on peut se contenter de lire les romans.
Alors, je crois que oui, on peut se contenter de lire les romans. Les œuvres théâtrales de Jules Verne, je dirais qu'il y en a de deux sortes. Il y a ses œuvres de jeunesse, qui sont des tragédies en vers, des opérettes, des livrets d'opérettes, donc qui ne présentent pas un très grand intérêt, je dirais, sauf pour les spécialistes qui ont envie de tout connaître de ce que Jules Verne a pu écrire. Et puis, il y a une autre partie, peut-être plus intéressante, qui sont des adaptations de ses romans au théâtre, qui parfois... qu'il a fait lui-même, ou avec des collaborateurs qui connaissaient bien le monde du théâtre, et qui sont parfois assez curieuses, parce que Jules Verne modifie l'intrigue. Par exemple, dans Le Tour du Monde, en 80 jours, il ajoute des personnages. Il y a plusieurs personnages féminins, alors qu'il n'y en a qu'un dans le roman. C'est assez curieux de voir que lui-même introduit déjà des variations qu'ensuite, au cinéma, les scénaristes ne manqueront pas de faire aussi. Donc, cette admiration pour Shakespeare, elle s'accompagne aussi d'une admiration pour Victor Hugo. Et là, pour Jules Verne, je crois que c'est le grand modèle. Bon, il est vrai que dans les années 1840-50, Victor Hugo est le grand auteur, à la fois pour le théâtre, la poésie, le roman. Il est aussi celui qui s'oppose à Napoléon III en s'exilant à partir de 1850. Donc, c'est un personnage que Jules Verne
se positionne forcément aussi par rapport à lui.
Voilà, il rêvera de le rencontrer dès qu'il arrive à Paris en 1848. Et je crois qu'il va l'apercevoir un jour dans un salon de loin et il en est fou de joie. Il écrit à ses parents « J'ai vu Victor Hugo ». Une admiration aussi importante pour l'œuvre de Jules Verne, cette fois, c'est Edgar Poe. Puisque là, ce conteur américain qui va être traduit en France dans les années 1840 par d'abord des traducteurs anonymes, puis Baudelaire, Jules Verne découvre une œuvre qui va le passionner. Il découvre des contes fantastiques, mais aussi des contes où on déchiffre des messages codés, comme dans Le Scarabée d'Or, par exemple. Et très souvent, dans ses romans, on va retrouver ces tentatives pour déchiffrer des messages codés, lui aussi. Chez Edgar Poe, il y a aussi ces contes un peu farfelus, avec des personnages étranges, et Jules Verne s'inspirera parfois de certains d'entre eux.
Et puis, il y a aussi la rencontre avec les Dumas. Est-ce que ça, c'est important ? Est-ce qu'il y a une cordée entre Verne et Dumas, comme il a pu y avoir une cordée en peinture plus tard entre Picasso et Braque, même si c'est évidemment pas comparable.
Oui, il y a un vrai passage de relais. Lorsque Jules Verne arrive à Paris en 1848, il rencontre très vite Alexandre Dumas, ou sans doute en fréquentant des salons, c'était à l'époque le meilleur moyen pour rencontrer un personnage connu. Et Dumas va très vite sympathiser avec ce jeune homme qui lui dit « Voilà, je voudrais devenir écrivain, j'ai écrit une pièce. » Et Dumas va l'inviter à venir chez lui, lire la pièce. Et le fils d'Alexandre Dumas, donc Alexandre Dumas fils, est présent. Et ils entendent cette première pièce de Jules Verne qui s'appelle « Les pailles rompues ». Et se disent qu'il y a quelque chose. Donc Jules Verne et Alexandre Dumas fils vont travailler ensemble, remanier un petit peu cette pièce, et Dumas père va la faire jouer dans le théâtre dont il est à l'époque le propriétaire, qui s'appelle le Théâtre historique de Paris. Donc c'est lui qui un petit peu va pousser Jules Verne vers cette écriture théâtrale, lui permettre de faire jouer sa première pièce en 1851. Et on peut penser que Jules Verne a connu et vu la façon de travailler d'Alexandre Dumas, qui lui aussi est un bourreau de travail, écrivant énormément, se documentant beaucoup, et que peut-être il s'est inspiré de cette façon de faire.
Mais tout de même, par rapport à tous ces écrivains-là, on a l'impression que Jules Verne montre une modernité comme personne d'autre ne l'a fait à son époque. Peut-être avez-vous en tête d'autres écrivains qui l'auraient fait après ou qui l'auraient fait ailleurs qu'en France. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'est lui qui semble incarner la modernité dans les histoires.
Oui, il incarne une véritable modernité dans la mesure où il est sensible à toutes ces transformations que son époque connaît. Je dis parfois qu'il est né avec la bougie pour s'éclairer, le cheval pour se déplacer, et quand il est mort, on en était à l'électricité, aux avions et aux automobiles. Il a connu une époque où la vie quotidienne a été profondément transformée par de nombreuses inventions, pas seulement donc les découvertes géographiques ou scientifiques, mais aussi toutes ces nouveautés qui sont apparues dans la vie quotidienne de chacun. Et ce qui est naturel, je pense, c'est qu'il s'est interrogé aussi sur l'évolution que connaissait la civilisation européenne telle qu'il pouvait la voir.
Donc il est critique de la modernité.
Il est assez critique dans l'utilisation de certaines inventions. Il voit bien que la tendance aussi, c'est de développer des armes de plus en plus terrifiantes. Il n'a jamais imaginé dans ses romans une guerre future, comme le fera par exemple Albert Robida, qui est un auteur qui arrive dans les années 1880, ou bien un écrivain qui s'appelle le capitaine d'Henrit, qui lui imagine toute une série de guerres imaginaires entre la France, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la France, l'Afrique, etc. Mais Jules Verne sent, je pense, qu'un jour, toutes ces armes que l'on invente, tous ces canons de plus en plus monstrueux, serviront malheureusement à des fins destructives.
Mais ce sont des sujets avec lesquels il prend un risque par rapport au milieu littéraire. On peut quand même imaginer que le romantisme est toujours ambiant dans ces sujets, dans la France dans laquelle il vit et dans laquelle il écrit, Daniel Compère. Donc il prend un vrai risque, il prend aussi le risque de parler d'économie, ce qui dans le milieu artistique est forcément mal vu.
Oui, c'est le risque que prend Jules Verne, c'est effectivement de faire entrer dans le roman toute une série d'éléments qui, a priori, n'y ont pas leur place. L'économie, des chiffres, des mathématiques, des termes scientifiques, des allusions à des réflexions politiques, d'organisation sociale aussi. Et tout cela, l'art de Jules Verne, c'est d'arriver à le fondre dans une intrigue qui va à la fois amener le lecteur à réfléchir, mais aussi à lire et être passionné par la manière dont Jules Verne l'entraîne.
Mais il le paye aussi, il se met en marge quand même.
Voilà, je pense que c'est sans doute ce qui explique cette marginalité que Jules Verne connaît déjà de son vivant et qui va se poursuivre, je dirais, tout au long du XXe siècle quasiment. C'est qu'on va dire assez souvent, ce n'est pas un écrivain, ce n'est pas un romancier. Il y a trop de science chez lui, il y a trop de technique, et du coup, son œuvre n'appartient pas à la littérature.
Est-ce qu'il a écrit une comédie humaine, selon vous ?
Alors, c'est une forme de comédie humaine, et je crois que la pensée de Balzac, elle est aussi présente à l'esprit de Jules Verne, dans l'idée d'une cohérence qu'il essaie de donner à son œuvre. Il fait, comme Balzac, mais moins que lui, revenir certains personnages qui réapparaissent, Nemo, Robur, les personnages de La Terre à la Lune aussi reviennent plusieurs fois. Mais son intention aussi, à ses débuts en tout cas, elle est affirmée dès ses premiers romans, « 5 semaines en ballon »,« Voyage au centre de la Terre et de la Terre à la Lune », c'est de présenter une critique de la société de son temps, d'avoir un regard qui ne ménage pas ses contemporains et présente aussi les travers de la société.
Merci beaucoup Daniel Compère de nous avoir aussi bien redonné envie de lire Jules Verne. Et à présent, il est 15h54 et c'est le moment où il arrive chaque jour pour nous enchanter. C'est Jacques Bonafé qui lit la poésie dans la compagnie des auteurs. Toute cette semaine, il a choisi des textes de l'Irlandaise Evan Boland et de son recueil « Une femme sans pays ».
Bonjour, poésie irlandaise. On se souvient de Seamus Heaney, prix Nobel. Elle, Evan Boland, se souvient de Yeats. William Butler Yeats, mort en 1939, qui élabora la théorie de l'anti-moi. Elle retient que du conflit avec les autres naît la rhétorique, du conflit avec soi-même, la poésie. L'art de l'empire. Si nul dans ma famille n'en a jamais parlé, si nul n'a transmis ce qu'il en était de naître sous le joug et de se marier dans un pays pauvre, si nul ne voulait se souvenir du bruit des habits rouges au petit galop, dans les allées blanchies de fleurs de pommier les matins d'avril, si nul n'a jamais dit comment une femme allait, ce qu'elle faisait, ce qu'elle ne refaisait jamais lorsqu'elle vivait dans un empire agonisant, si ce qui a été tu n'a jamais été vu, si ce qui n'a jamais été vu n'a pu être su, considérer ceci comme la seule façon possible qu'eut l'Empire de se retirer, emportant ses doigts, ses chevaux, ses grands airs, laissant comme seul apprentissage celui d'un art ne nécessitant ni orfèvre, ni souffleur de verre, mais une femme exercée au genre de silence qui lui fait broder des fleurs au point d'ombre sur le lin avec des fils de soie couleur pastel sans jamais lever les yeux pour remarquer ni se rappeler la raison pour laquelle l'oiseau de son œuvre au noir lui lance cet avertissement. Pas un mot, pas un mot, pas un mot, pas un mot. À distance du pouvoir comme de l'insurrection, Evan Boland choisit la voie marginale, sondant silence et point de rupture, trouvant refuge loin des combats fratricides dans l'affirmation d'une conscience individuelle aux prises avec ses divisions internes. Ceci extrait de la préface de la traductrice Martine de Clair. Ma grand-mère a vécu hors de l'histoire. Elle y est morte, à l'âge de 31 ans, mère de 5 filles affrontant la mort dans un hôpital éloigné de chez elle. Je doute que rien de ce qui l'entourait eût alors quelque importance. Pourtant, au cours de sa vie, l'Irlande était passée de l'oppression au soulèvement. Son existence s'était déroulée à cette lisière. Trouva-t-elle sa nation? Finalement, cela importe-t-il? Suite du même poème consacré à la grand-mère, leçon. Il s'égrène en leçon. Leçon 6. Un siècle plus tard, je lève la tête, le regard. Ce qui se joue entre un artiste et une nation n'est pas une foi, mais un soi. Ce qui se joue entre un artiste et une vérité n'est pas un soi, mais une image. Au cours de son existence anonyme, elle ne fut ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois. Ce qui me troublait n'était pas de savoir si elle avait inclus son pays dans sa courte vie, mais si celui-ci l'avait incluse.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des extraits du recueil d'Ivan Boland, Une femme sans pays, dans la compagnie des auteurs. Point d'orgue à une émission consacrée aujourd'hui au grand écrivain Jules Verne, que l'on relit avec toujours autant de passion, et cela quel que soit son âge. Un grand merci à Daniel Compère, dont je rappelle le dernier ouvrage, La science romanesque de Jules Verne, paru en 2014 aux éditions Ancrage. Demain, dernière étape de notre voyage, je recevrai François Angelier et nous parlerons fantastique, polar, gore et même sexe chez Jules Verne. Thank you.